Y a-t-il ?
Je viens de détecter une déficience de l'antenne radar.
Veuillez vous présenter à l'identification vocale.
Je veux que vous me parliez. Je voudrais vous entendre.
Est-ce excessif ?
S'il vous plaît, répondez-moi.
Cinérama.
Bonjour.
C'est bien. Encore une fois, bien articulé.
Cinérama.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
De quoi s'agit-il ?
Question intéressante.
Actualité cinéma.
Ah, un petit mot encore.
Et tout le reste.
En fait, nous avons tous les renseignements utiles. Oui, merci.
Juste un petit détail afin de mettre mon dossier à jour.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oui. Non.
Bonjour, comme chaque fois, bien du bon, du moins bon, même s'il arrive que parfois nous parlions de films qui sont tous excellents. Mais ce ne sera pas forcément le cas aujourd'hui. Bonjour Marine, bonjour Manu.
Bonjour à tous.
On va surtout parler de films qui sont sortis le 15 mars et bien avant, Marine, avec toi.
Oui, alors moi, ce sera un doublé français. Je vais vous parler de Jour de France de Jérôme Rébaud et de l'excellent Patient de Grand Corps Malade.
Le film Patient qui nous donnera l'occasion de jouer un blind test spécial handicap à l'écran. Donc on écoutera 5 extraits, il faudra deviner les titres. Et toi Manu ?
Eh bien, je voulais vous parler donc de The Lost City of Z, le nouveau film de James Gray, et puis la dernière livraison de Lelouch, Chacun sa vie.
Voilà, et le Lelouch, eh bien, je pense que tu vas l'égratigner. Ce sera bien tout le contraire du film d'Aki Kaurismäki que j'ai beaucoup apprécié, L'autre côté de l'espoir. J'en ferai la chronique, mais on débute donc avec un film français, avec toi Marine.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Et on commence donc avec Jour de France. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'application Grindr. Hein. C'est une sorte de site de rencontre pour gays, doublé d'un système de géolocalisation. Le principe est simple, vous êtes un homme gay, vous vous connectez sur cette appli et vous pouvez instantanément voir tous les gays connectés autour de vous, à quelques mètres, ou à plusieurs kilomètres. Alors ensuite, à vous de jouer, hein, vous choisissez celui qui vous plaît, bon, sachant que sur les photos c'est quand même rarement les visages qu'on voit, vous vous donnez rendez-vous et c'est parti pour une bonne session de Scrabble. Alors un jour, Pierre quitte Paul, il décide de monter dans son Alfa Romeo. D'ailleurs, je pense que le film s'est entièrement financé sur ce placement de produit. Hein. Bref, au volant de sa voiture, il décide de parcourir la France au gré des rencontres qu'il aura donc fait sur l'application Grindr.
Vous allez où ?
Je ne sais pas.
Moi, c'est la route pour la route.
Donc vous n'avez pas de désir fixe ?
Parfois, rarement.
Vous allez dormir où maintenant ?
Ne vous inquiétez pas. La France est vaste. Il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de possibilités.
Alors, son amant est conduit et décide de le retrouver en utilisant également donc l'application afin de le localiser. Et voilà que commence un double road trip dans le massif central. Alors, dans cette carte du tendre grandeur nature, Pierre va rencontrer des hommes, des femmes aussi, tous un peu étranges mais attachants, qui vont questionner son besoin de liberté et ses rapports humains. Il y a quelques mois, sortait Tour de France de Rachid Djaïdani, road movie qui entendait réconcilier la France profonde et celle des banlieues en faisant le tour des ports de notre pays. Jour de France est aussi l'histoire d'une réconciliation entre deux hommes, mais son action demeure dans la région centrale, région au demeurant, peu souvent mise en scène au cinéma. Jour de France raconte une histoire d'amour à travers une rupture, mais célèbre les paysages de la France, les individus qui la composent et le langage français. Car le film propose des dialogues particulièrement écrits et poétiques, déclamés avec un phrasé qui nous évoque la nouvelle vague. Alors, souci majeur quand même du film, hein, son manque de rythme. Jour de France pourrait être un film fascinant, c'est juste ennuyeux et pour cause, plus de 2 heures d'errance et de rendez-vous ratés, ça finit quand même par être un petit peu redondant. Et puis c'est vrai qu'il y a aussi du coup ce phrasé qui peut être très perturbant. Moi j'ai bien aimé, mais c'est vrai que c'est un film qui n'est pas facile du tout et qui est beaucoup trop long.
Et qui est un peu marmonné, comme on l'entend dans cette bande-annonce. C'est,
bon. Comme beaucoup de films français.
Voilà, c'est vrai. Voilà, eh bien, nous allons passer à un autre film. C'est celui de James Gray, qui est plutôt connu pour ses mélodrames, mais là, il s'est lancé dans un film bien d'aventure.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
C'est toi l'explorateur ? Donne-moi ta main.
Je suis à la recherche d'une cité perdue.
Ce que tu cherches dépasse de loin tout ce que tu as pu imaginer. Là est ton destin.
On dirait un peu une bande-annonce d'Indiana Jones du prochain, oui. Hein, que d'un film d'aventure aussi un peu austère quand même. Hein. Alors avec son précédent film, hein, The Immigrant, James Gray avait réussi un miracle, hein, celui de transformer un sujet, on va dire tire-larme, en un magnifique mélodrame dans la lignée de ceux de Franck Borzage. Il avait aussi donné à Marion Cotillard le plus beau rôle de sa carrière. Enfin, parler de miracle est exagéré, car le cinéaste a réussi jusqu'ici un sans faute, hein, depuis son premier film sur la mafia russe, Little Odessa, puis The Yard, La Nuit nous appartient, et surtout Two Lovers, qui sont tous des réussites exemplaires, hein, installant définitivement Gray comme le meilleur cinéaste américain de sa génération, avec quand même une thématique constante, celle de la famille. Alors le voir courageusement sortir de son univers habituel avec son nouveau film pour arpenter les terres plus spacieuses du cinéma d'aventure est une bonne nouvelle et la preuve qu'il y a chez l'auteur de Two Lovers une volonté de renouveler son cinéma. The Lost City of Z s'inspire d'une histoire vraie, celle de Percival Harrison Fawcett, explorateur du XXe siècle, du début du XXe. Alors, colonel britannique dont la réputation est bafouée à cause d'un héritage paternel peu glorieux. Je crois que son père, il était alcoolique, mais on n'en sait pas plus. Fawcett accepte une mission périlleuse, hein, de la Société Géographique Royale afin d'accéder à la gloire, du moins dans un premier temps, partir en Amazonie dans le but de cartographier les frontières entre le Brésil et la Bolivie. Une fois sur place, il se passionne pour l'exploration et découvre des traces d'une cité perdue, prouvant que les indigènes sont évolués. De retour dans son pays, son obsession ne cesse de croître et il décide de retourner, sacrifiant sa vie de famille, à la recherche de cette mystérieuse civilisation.
L'environnement est d'une hostilité violente. Ce voyage pourrait bien vous coûter la vie, mais vous permettrait de réhabiliter le nom de votre famille.
Il n'y a personne qui revient de là-bas.
Si nous venons à découvrir une civilisation cachée, là où nous considérions que c'était impossible, cela pourrait ouvrir un chapitre inédit de l'histoire de l'humanité. Je l'ai nommé Z. Elle existe. Et notre devoir est de la trouver!
Alors James Gray, hein, malgré la bande-annonce, hein, où on a l'air de penser que le personnage principal est complètement fou, il prend justement le contre-pied de ce qu'on attend généralement d'un tel sujet traitant de la folie d'un homme exalté par sa mission. Alors on pense au début au cinéma, on va dire un peu hallucinatoire de Werner Herzog, hein, mais rapidement le film prend une autre direction, intéressante mais à mon avis un peu frustrante. Fawcett n'est pas un fou, mais un être complexe, ambigu, tiraillé entre son ambition personnelle, sa vie de famille à laquelle il est attaché, malgré tout, malgré son absence, et aussi son humanisme combatif. Il incarne une sorte de personnage haut en couleur hérité des grands romans d'aventure. Sauf que son destin ne m'a pas vraiment touché. The Lost City of Z, en dépit de ses qualités indéniables, décline des thèmes de manière un peu scolaire et arbore un ton un peu sentencieux aussi. Alors on a parfois l'impression d'assister à un cours magistral sur le racisme, le féminisme, la famille, l'ambition personnelle, la guerre. En fait, Gray brasse beaucoup de choses avec des intentions très louables, mais pour la première fois, il sombre dans l'académisme, reproche qu'on lui a souvent adressé auparavant, mais qui ne m'avait jamais frappé. Au contraire, jusque-là, Gray, en parfait équilibriste, parvenait à transcender le classicisme de ses mises en scène grâce à des trouvailles visuelles incroyables et pas forcément repérables à la première vision. Ce qui fait que peut-être que ce film-ci, je le reverrai sans doute avec plaisir. Hein. Alors la lumière a toujours joué chez lui un rôle prédominant. Hein. The Immigrant bénéficiait d'une photographie crépusculaire splendide due à Darius Kandji. Hein. Il poursuit sa collaboration avec le français, qui a aussi éclairé entre autres Délicatessen, Seven, Minuit à Paris ou encore Amour. Mais étrangement, l'image paraît sombre, étouffante, une sorte de clair-obscur décalé ne rendant jamais justice au décor naturel d'une jungle magnifique. On a l'impression que Gray essaie de plaquer son style urbain sur celui de la fresque. La greffe de l'intimisme et du spectaculaire ne prend pas vraiment. Le premier voyage de Fawcett me paraît longuet, il manque d'intensité, de fièvre. Hein. J'ai fini par m'ennuyer, en fait. Alors, chaque retour au pays est suivi, on va dire, de débats sur l'égalité entre indigènes et occidentaux, hommes et femmes, et aussi gradés et non gradés. Alors, cet aspect social et politique, hein, certes bienvenu par les temps qui courent, a un côté solennel qui manque d'incarnation. Les enjeux restent à un niveau théorique. Alors, c'est dommage car Gray est un metteur en scène inspiré. Alors surtout, dès que ces comédiens ne parlent pas, en fait, à l'instar de la splendide séquence d'ouverture, hein, une chasse au cerf, je crois que c'est au cerf, hein, il me semble, bénéficiant de mouvements de caméra fantastiques, là, un souffle épique parcourt ces 5 premières minutes. La capture finale des indigènes par sa nature prophétique, voire très noire, loin de tout angélisme, est aussi un des moments fascinants de ce film inégal, très maîtrisé dans sa forme, hein, mais parfois désincarné. On est un peu loin de ce qui d'une inspiration quand même lointaine, c'est le livre Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad, qui avait inspiré plus tard Apocalypse Now. Alors, passé la déception, hein, The Lost City of Z, reste malgré tout un beau livre d'images, hein, s'étalant sur 20 ans, hein, doublé d'un récit intéressant sur la nature hostile et la ténacité d'un homme obnubilé par sa mission. Et puis, le film est bien joué, il est remarquablement bien filmé, mais j'ai pas adhéré complètement, mais je pense qu'il va falloir que je le revoie.
Voilà, ça c'était le James Gray. On va faire un petit rattrapage avec le film Passion.
Cinérama.
Oh non, ça suffit, de quoi s'agit-il ? C'est une blague.
Interview, chronique, blind test et tout le reste.
Merci.
Bonjour Benjamin, ça va ? Il a bien dormi ? J'ouvre un premier volet et le soleil est là, car je l'ai demandé. Moi c'est Jean-Marie et je suis un des aides-soignants qui s'occupera de toi le matin. Il est d'accord ?
Oui. Il est d'accord. Ben se réveille sur un lit d'hôpital sans pouvoir parler ni bouger. Il aura suffi d'un plongeon et d'une piscine pas assez remplie pour lui briser les cervicales et le rendre tétraplégique. Il va passer un an dans ce centre de rééducation en Seine-Saint-Denis, entouré de ses nouveaux amis Tétra, comme ils s'appellent eux-mêmes, en apprenant peu à peu, à s'apprivoiser les uns les autres et à réapprivoiser leur propre corps. Alors il y a ceux qui réapprennent à vivre, il y a ceux qui se résignent à ne plus jamais être les mêmes, et il y a ceux qui n'acceptent pas, et il y aura même l'éventualité un peu folle d'une histoire d'amour.
Qu'est-ce qu'on passe comme temps à rien branler ici ?
Règle numéro 1, la patience mon pote.
Faut que tu commences à penser comme un handicapé.
Faut changer d'espoir quoi.
Allez putain !
On va se revoir dehors.
Si t'as envie. Salut.
Salut, ça va ?
Ouais, salut.
Tu sais, ce quoi qui est relou avec les meufs en fauteuil ?
Ah.
C'est que tu sais jamais si elles ont un gros cul.
Alors pour ses premiers pas derrière la caméra, Fabien Marceau, que l'on connaît mieux donc sous le pseudo de Grand Corps Malade, adapte Patient, son livre autobiographique. Ce livre était conçu comme un hommage en fait à la base à tous ceux qui l'avaient aidé à se reconstruire lorsqu'il avait été lui aussi cloué sur un fauteuil. Cette adaptation libre de son propre roman est plus que cela, c'est un hommage à la vie, une ode à l'amitié, à l'espoir et bien entendu à la patience dont il faut s'armer pour guérir. Alors Patient est construit comme un huis clos rythmé par le ballet des fauteuils roulants dans lequel les dialogues fusent et percutent, autant intouchable pataugé dans les clichés hein, et vous soutirez des larmes faciles, autant Patient est d'une sincérité et d'une crudité à toute épreuve, refusant l'émotion conventionnelle servie par un humour cruel mais salvateur. C'est un film sincère mais qui s'est dérangé aussi dans la cruauté de ce qu'il raconte en nous mettant face à notre vision du handicap. Alors je vais encore vous gratifier d'un laïus sur la comédie française, mais des comédies humanistes, eh ben, il n'y en a pas tant que ça. On a plus souvent tendance dans le cinéma français grand public à employer l'humour dit oppressif, c'est-à-dire par exemple qu'on aura plus tendance à rire des handicapés plutôt qu'à rire avec les handicapés. Et lorsque l'humour change de camp, eh bien c'est prodigieusement salutaire. Alors l'autre force du film, c'est qu'il n'entend pas être autobiographique. On croit à tort que l'on va assister à la mutation de Ben en slammer, comme ça a donc été le cas pour Grand Corps Malade. Il n'en est rien. Le film joue avec les attentes du spectateur, même si les questions de la passion du personnage principal pour le rap, nous n'aurons aucune information supplémentaire. L'autobiographie ne prendra jamais le dessus sur le vrai sujet du film, le handicap. Alors Pablo Poli, que l'on avait entreaperçu dans un second rôle aux antipodes de celui-ci, hein, en manager ténueux dans le drame social Carole Mathieu, passe avec ce film dans la cour des grands avec un premier rôle tout en finesse qu'il campe de façon très talentueuse. Mais on pourrait aussi citer tout le casting, hein, Sofiane Guerouab, Moussa Mensali et Neila Arzoun, tant les comédiens sont saisissants de naturel. Bref, c'est une vraie réussite. Les critiques sont unanimes d'ailleurs. Et les spectateurs aussi, et je peux vous dire, sans mauvais jeu de mots, bien qu'à la fin de la séance, tout le monde avait un peu de mal à se lever de son fauteuil. Non mais vraiment, sans mauvais jeu de mots, c'est vrai.
Donc voilà, c'est un film, c'est un petit rattrapage parce qu'il est, oui, est déjà est, sur les écrans
sorti,
depuis le début mars.
Il y a déjà oui, quelques semaines.
Et ça nous donne l'occasion, donc, bien ce thème du handicap au cinéma, y compris dans la comédie, eh bien, de jouer un blind test spécial handicap à l'écran. Et alors, il n'y aura pas que des comédies. Premier extrait.
Plus personne ici ne bondit dans les airs. Aujourd'hui, il n'y a que des vieux, affaiblis ou, comme moi, rigides et muets. Un bataillon d'éclopé. Je me fais souvent conduire à l'endroit que j'ai surnommé Chinechita, une terrasse perpétuellement déserte, donnant sur un paysage dont il émane le charme poétique et décalé des décors de cinéma. Au pied des dunes, quelques baraques donnent l'illusion d'un village fantôme du Far West.
Alors, ça a été trouvé Marine.
Ouais, c'était le scaphandre et le papillon avec Mathieu Amalric.
Un film de Julien Schnabel de 2007. C'est l'histoire de Jean-Dominique Bobby hein, qui a écrit son livre en dictant chaque lettre par le seul moyen de communication qui lui restait, le clignement de son œil gauche. Deuxième extrait.
Tu files combien pour faire ça?
Je sais pas. 500, 1000. Ça dépend si je gagne.
Tu feras ça pour 500 euros?
Bah ouais.
Tu te fais défoncer la gueule, mettre des coups sur la gueule comme ça, risquer ta santé pour 500 balles.
Risquer ma santé, ça va, t'excites pas.
Je te les file, moi, les 500 balles. T'as nul, je te les file. Demain.
Bah, si t'en as trop, tu me les files, mais j'ai dit que je le faisais, donc je le fais.
Alors, ça a été trouvé là encore, Marine.
Oui, c'était Dorouillédos avec Marin Cotillard et Mathias Schoenert.
Voilà, qu'on entend effectivement. Et puis dans le casting, il y avait aussi Corinne Massiero et Céline Salette. C'était un très très bon casting. Bien, c'est le film où elle perd ses deux jambes, Marion. Mmh. Donc, troisième extrait maintenant.
C'est une maladie neurologique progressive qui détruit les cellules du cerveau qui contrôlent l'activité musculaire essentielle à la parole, à la marche, à la respiration, à la déglutition. Les signaux dont les muscles ont besoin pour arriver à se mouvoir ne sont plus transmis. Il s'ensuit une atrophie musculaire graduelle. Un dépérissement. Avec le temps, l'incapacité de contrôler les mouvements volontaires sera totale. Je crains que la moyenne d'espérance de vie ne soit que de 2 ans. Je ne peux rien faire pour vous.
Et mon cerveau?
Eh bien, il ne sera pas atteint. Vos pensées vont garder leur clarté. Sauf que... vers la fin, plus personne ne les connaîtra.
Oui, c'était bien de le laisser dans la durée. Ce sera le plus long extrait de ce blind test. Ça a été trouvé, Marine.
C'était une merveilleuse histoire du temps. Je crois qu'à la fin, il finit handicapé, mais je suis pas sûre.
Effectivement, c'est adapté de la vie de Stephen King. Et là, c'était la description eh bien, de la sclérose. Stephen Hawking.
Stephen King n'est pas handicapé, malgré ses lunettes. Hein, mais...
de Stephen Hawking, donc. Et là, c'était la description de la sclérose latérale amyotrophique. Voilà. Et c'était Eddie Redmayne qui interprétait le rôle de Stephen Hawking. À noter d'ailleurs qu'avec le scaphandre et le papillon, c'est là encore eh bien, un biopic, une sorte de biopic en tout cas, c'est adapté d'une histoire vraie. C'est souvent le cas dans les films qu'on va entendre et c'est le cas dans cet extrait.
Julien, je veux te parler de cette course. On ne peut pas la faire, ni toi ni moi. Moi, il faudrait que je sois surentraîné et toi physiquement, tu vois bien, non, c'est pas possible. Et tu ne peux pas rester toute une journée sous un soleil de plomb. Ceux qui font ce genre d'épreuves, ils s'entraînent au moins 20 heures par semaine. Pendant des mois et des mois, avec une détermination sans borne.
Je suis sûr que tu peux y arriver. À deux, on peut le faire.
Mais à deux, c'est pire.
Alors, ah là, ça bloque.
Ouais, alors, ça bloque un peu.
C'est pas avec l'acteur qui jouait dans Par ton âme.
Alors ça, c'est Jacques Gamblin qu'on entend.
C'est Jacques Gamblin.
Voilà. C'est pas un doublage, hein, c'est...
et... oui.
Et c'est un film sorti en 2013. La plupart des films, de toute façon, qu'on écoute dans ce blind test sont sortis après 2000.
Est-ce qu'il est question de voile?
Non, pas du tout.
Non, d'accord.
C'est un père et son fils handicapé en fauteuil hein, qui ont le projet de faire la compétition Ironman, le triathlon. Voilà. Et donc, c'est De toutes nos forces, film de Nils Tavernier, sorti en 2013. Donc. Allez, on se quitte avec ce blind test pour bien un extrait facile à trouver.
Ah, j'ai pas fait 3000 bornes! J'ai pas fait 3000 bornes pour pas voir le patron!
Appelez le directeur! Directeur!
J'ai pas fait 3000 bornes moi! Faudra me passer dessus avec un tracteur!
Encore
tu comprends ça?
Encore
tu vas m'écouter maintenant? Le directeur! Je vais voir le directeur! T'entends?
Non vedo pas cosa sta sulle mente, cosa sta io a rullo.
Indennité! 6 millions! 6 millions! 6 millions d'euros!
Okay.
I want to see the director! You don't speak English, you don't speak French! And what is this? Qui c'est qui fait les votes d'emploi ici? Y'a personne? Y'a pas de traducteur, y'a rien? Ok? Je veux de l'argent! Les indemnités! 6 millions! Tu comprends ça? Tu nous appelles le directeur tout de suite! Elle parle sais pas quoi là. Oh, vous n'avez pas vu qu'on est là, non? Oh, on a perdu nos jambes. Ça vous fait rien peut-être, hein?
Alors bon, bah, c'était vers la fin du film, Manu, ça a été trouvé.
Oui, c'est l'Altra.
Oui, road movie en fauteuil roulant hein, jusqu'en Finlande pour retrouver ceux qui ont conçu la benne agricole Altra, donc qui donne le titre au film. Voilà, ainsi s'achève ce blind test sur le handicap. Et bien, c'est tout trouvé d'ailleurs, qu'on termine avec ça, puisque je vais vous parler de Corys Maki, du dernier film de Corys Maki. Et Corys Maki eh bien, fait un caméo dans le film de Gustave Kervern et Benoît Delépine.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
C'est l'Ours d'argent du meilleur réalisateur à Berlin, le festival qui était présidé cette année par Paul Verhoeven. Mais l'autre côté de l'espoir est surtout le premier film d'Aki Korismaki après Le Havre, qui a été réalisé en 2011. 6 ans pour sortir un nouveau long métrage, beaucoup de réalisateurs sombreraient dans la dépression. On pense à Xavier Dolan hein, notamment. Mais quand on regarde la filmographie du réalisateur finlandais, on remarque qu'il faut du temps pour accoucher d'un récit et le mettre en scène. Pourtant, à la vision de ces films, ce qui frappe, eh bien, c'est souvent l'économie de jeu des acteurs. Les films de Korismaki ne sont pas bavards. L'économie de plan, les mouvements de caméra et les coupes sont peu visibles. L'économie de temps, le Finlandais ne s'épanche pas dans ses longs métrages. Ce n'est pas Christopher Nolan. Y a-t-il d'ailleurs un seul film de Corys Maki dépassant les 1h40? C'est pas certain. Et l'économie se retrouve également eh bien, dans l'image, ou plus exactement, Corys Maki atteint un naturalisme dépouillé, un peu suranné. Plutôt que de décrire au maximum l'environnement de ses personnages en les saturant d'objets et de signes de l'époque, Corys Maki préfère vider les lieux. Qu'il s'agisse des habits, des voitures, des décors, difficile de dire par exemple que dans L'autre côté de l'espoir, eh bien, nous sommes en 2017. Pourtant, le réalisateur finlandais ne se cache pas de la portée politique de son film. Il l'a répété à longueur d'interview. Alors j'ouvre les guillemets. Avec ce film, je tente de mon mieux de briser le point de vue européen sur les réfugiés, considérés tantôt comme des victimes objets de notre apitoiement, tantôt comme des réfugiés économiques qui, avec insolence, veulent prendre notre travail, nos femmes, nos logements et nos voitures. Voilà qui est salutaire en cette période d'élection présidentielle en France. L'autre côté de l'espoir convoque deux destins, celui de Khaled, un jeune migrant syrien qui a quitté Alep et qui a rejoint la Finlande par bateau, complètement par hasard, et celui de Wikström, un vendeur de chemises, commerce sur le déclin, qui décide de plaquer sa femme alcoolique et son boulot pour ouvrir un restaurant. Avec cette économie dont je parlais un peu avant, eh bien, le film engage la vision d'un monde. Nous allons suivre la quête de Khaled pour obtenir le droit d'asile. Corys Maki ne manquera pas de nous montrer la procédure en vigueur. La vie de Khaled, quand il la raconte à l'administration qui doit juger de sa nécessité de rester en Finlande, a quelque chose de tragique. On sait ce qui se passe en Syrie, on sait également ce qui se passe en Hongrie sur le chemin des migrants. Pour autant, Khaled le dit à plusieurs reprises, j'ai rencontré des gens bien. J'ai été aidé par des gens bien. Voilà, il le dit de différentes manières. Un discours qu'on entend régulièrement dans la bouche des migrants qui ont fait des milliers de kilomètres. Et pour moi, qui ai eu l'occasion d'ailleurs de faire plusieurs interviews de migrants, d'immigrés, c'est quelque chose qu'on entend. Il y a un moment dans le parcours d'un migrant, il rencontre quelqu'un qui fait quelque chose de bien. Alors tout est quasiment là. Hein. Corys Maki élabore un récit dans lequel la fraternité, la solidarité est attendue, espérée, racontée et duquel elle va aussi émerger. Pour ces deux hommes qui quittent un passé, alors l'un son foyer et son boulot, l'autre son pays et sa culture, eh bien les rencontres vont être déterminantes. La simplicité des dialogues, des situations, des décors, des plans vont jouer à plein pour se concentrer sur l'essentiel, la fraternité. Et comme toujours avec Corys Maki, eh bien l'humour qui tient autant aux situations qu'aux maigres dialogues et à la touche des personnages, permet de ne pas appesantir le propos. Le restaurant choisi par Wikström pour reconstruire sa vie vaut le coup d'œil. Vilaine devanture, vieux mobilier, prix du menu encore affiché en marque finlandais. Voilà, alors qu'on voit Khaled qui, lui, paie sa douche avec 2 euros. Hein. Donc, avec le restaurant, il récupère aussi le personnel, soit un cuisinier monomaniaque du hareng, un portier plein d'idées et une serveuse espiègle. Ce monde du travail, vu avec l'œil du burlesque, va alterner avec le parcours de Khaled, qui, lui, cherche à obtenir donc son droit d'asile, qui lui permettra sans doute de travailler et de s'insérer dans la société. Alors, il n'y a pas grand suspense, simple, drôle, politique et salutaire. L'autre côté de l'espoir raconte la solidarité, la fraternité dans un univers singulier, propre au cinéaste. On semble hors du temps, si ce n'était les bombardements d'Alep vus à travers la télévision. C'est ça qui nous raccroche finalement à notre époque. On terminera avec une phrase de Corys Maki qu'il a répétée dans les médias. J'ouvre encore les guillemets. C'est un film qui tend dans une certaine mesure et sans scrupule à influer sur l'opinion du spectateur et essaie de manipuler ses sentiments pour y parvenir. Et c'est fait d'une bien belle manière avec des petits morceaux de musique. Ça accompagne le récit, on en écoute un extrait, c'est du vieux blues. Masculin. Ma Voilà, c'était L'autre côté de l'espoir, film très réussi d'Aki Kaurismäki. C'était bien d'avoir attendu 6 ans pour le voir.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, 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 je vous dis. Et même saloperie. Hein.
Nous allons essayer, mesdames et messieurs, de le juger le moins mal possible. Sachant que la règle essentielle, c'est celle de l'intime conviction. C'est ce que vous avez ressenti, subi, entendu, ce que l'on a crié, ce que l'on a tué, ce qui fait ce que vous êtes. Et c'est sous le prisme de ce que vous êtes qu'on va juger cet homme.
Mon intime conviction, c'est qu'il est coupable.
Mon intime conviction, c'est que les choses ne se passent jamais comme on les avait imaginées.
Alors, essayer de le juger le moins mal possible, c'est ça que tu vas devoir faire.
Mon intime conviction, c'est que c'est vraiment un navet. Hein.
Voilà. Le film de Lelouch dont on parle.
On finit en beauté, donc. Alors, après son trip indien, hein, c'était 1 plus 1, hein, Claude Lelouch, l'infatigable génie du cinéma français, qui s'était autoproclamé jadis, il est vrai, c'était dans la revue du cinéma, comme la synthèse entre Godard et Spielberg, revient avec ce qu'il pense faire de mieux, le film Chorale, avec ses hasards et ses coïncidences, et Vive à la vie, avec les uns et les autres, et non les uns dans les autres, ce qui serait quand même plus rigolo. Et pour reprendre encore un de ses titres, tout ça pour ça. Là, j'ai dit 4 titres de Lelouch en une phrase, hein, quand même. Et la grande question métaphysique qui me taraude à la vision de ce navet intersidéral, mais pourquoi réunir dans un même film, alors tenez-vous bien quand même, hein, parce que ça, c'est assez spectaculaire, Jean-Marie Bigard, Christophe Lambert, Liane Folie, Gérard Darmon, Johnny Hallyday, Vanessa Demouy, Michel Leeb, Francis Huster, Béatrice Dalle, Kenji Girac, oui, oui, bien sûr, et j'en passe encore parce que j'en oublie, je crois qu'il y a Rufus, il y en a une cinquantaine d'autres, c'est assez hallucinant. Je ne vais quand même pas tous les citer, j'en aurai pour à peu près 5 minutes. Alors, est-ce bien raisonnable de s'entourer d'un tel casting? Et pourquoi faire? À part peut-être jouer les vieux schnock frimeurs pétés de thunes, si Lelouch n'était pas si âgé, voire grabataire, au vu de certaines déclarations qui montrent qu'il a toujours un ego démesuré, on pourrait le qualifier de Macron du cinéma, ratissant tout ce qu'il peut dans cette suite de sketchs sans queue ni tête. Mais selon le dossier de presse, le réalisateur dit, alors là c'est très drôle, avoir voulu filmer des parfums de vie et l'incroyable fertilité du chaos.
Oh,
qu'est-ce que c'est beau, j'aurais aimé l'inventer cette phrase en fait.
Hein.
Alors je vous laisse méditer sur ces déclarations profondes.
C'est quoi l'amour?
C'est quand la question de savoir si c'est un bon coup se pose plus.
T'as déjà trompé ta femme toi?
Jamais de son vivant.
Ça veut dire quoi ça?
Comment il faut que je fasse pour te dire que je t'aime?
Le jour où tu me le diras les yeux dans les yeux, tu vois, je te croirais peut-être.
Non, retourne-toi alors.
À travers les destins d'une cinquantaine de personnages se croisant lors d'un festival de jazz. Bon, le jazz ici représenté par Liane Folie, qui nous chante la boîte de jazz de Jonas. Je pense que les grands jazzmen se retourneraient dans leur tombe. Alors, le cinéaste ne raconte rien, laisse ses comédiens débiter des âneries entre aphorismes débiles et réflexions philosophiques sorties d'un roman de gare. Encore un titre de Lelouch. Alors, pour alléger tout ça, Bigard, en médecin, sort des cartes à jouer, et lit des blagues, de cul surtout, à ses patients, seul remède à la maladie, à ses yeux. Ah non, c'est, on croit rêver, mais non, Lelouch ose tout, surtout le n'importe quoi.
La thérapie du rire, ah oui.
C'est ça, c'est ce qui guérit les gens, hein, le rire. Ah non, mais dans un maelstrom de niaiserie, de vulgarité, alors entre réflexion misogyne sur le viol, genre à un moment donné, elle l'a bien cherché. Excuses aussi adressées aux riches qui sont trop imposés, moment surréaliste d'un Michel Leeb rattrapé par le fisc, et petite pique acerbe adressée au mariage pour tous et à la peine de mort. Alors sinon, Christophe Lambert en alcoolo fait pitié, notamment lors d'une séquence avilissante où il lèche du vin sur le sol. La pauvre Vanessa Demouy apparaît brièvement lors d'un mini-sketch d'un sexisme décomplexé. Elle fait une fellation à un flic à la demande de son petit ami pour faire sauter son retrait de permis. Non, c'est vrai, hein, tout ça.
Oui, oui.
Alors, ce serait du Max Pekka, on comprendrait, hein, mais de la part d'un Lelouch qui se sent investi d'une mission artistique divine, c'est juste désolant. Un film ignoble, réac et putassier. Alors, parfait pour illustrer la campagne de Fillon. Hein. Bon, là, j'exagère un petit peu. Hein. C'est... Seul moment amusant du film, l'apparition de Johnny Hallyday, qui joue donc un double rôle, hein, le sien, et celui de son propre sosie. Alors, ça dure 3 minutes dans un commissariat, et c'est assez drôle. Alors, je n'ai pas évoqué la forme, hein, pour la simple et bonne raison, qu'elle n'existe pas. Alors, vous connaissez comme un critique sérieux qui se pencherait un jour pour analyser un épisode de Joséphine Ange Gardien. Je crois que c'est à peu près ça, mais avec beaucoup d'argent, beaucoup de stars et beaucoup de vent.
Voilà, ainsi s'achève Cinérama.
Alors, méfiez-vous des apparences et contrôlez toujours qui est qui.
Qui est qui?
Il va contrôler qui est qui.
Quoi, qui est qui?
Bah quoi, qui est qui, quoi?
Eh bien, qui a-t-il?
Auriez-vous oublié que nous partons?
La séance est levée.
croire que nous n'avons plus rien à nous dire.
Inutile d'avoir des regrets, c'est trop tard.
Voilà, vous l'avez compris, il y avait du bon, et puis vers la fin du moins bon dans ce cinérama. La semaine prochaine, eh bien, nous aurons une interview, celle de Arnaud Despalières et de Sergi Lopez pour un film qui s'intitule Orpheline, et qui n'est pas forcément drôle, mais qui est un bon film.